It had been 22 years since Dan and Tom last met, since they shared a desk in maths and played football together at lunchtime. 22 years with nothing more than a few Christmas cards and an online friend request to show for it. A 21st century eulogy for the loss of a once great friendship. Until a chance meeting outside the corner shop. On a morning, they both decided to ditch the car and walk instead. Walk, cycle, discover. To the Mayor of London and TfL, every journey matters.
Vous écoutez RMC.
Julien Laurence, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Salut mon Julien.
Tu confirmes, le handball, c'est pas ton truc?
Ouais, pas du tout chez nous. Pas du tout. Mais c'est vrai, c'est marrant. Il y a comme des sports qui prennent dans certains pays.
Le volleyball, culture. Énorme. Le water polo, énorme.
Bah non, mais en Angleterre, tu as ni handball, ni volley, ni basket.
Ouais, c'est vrai.
Après, non, avec, le fait, avec le temps qu'il fait, mon Jules, les sports enfermés comme ça, c'est dommage.
Mais c'est aussi c'est pas la raison, mais c'est aussi une des raisons qui fait que beaucoup de choses se concentrent autour du foot, qui est un sport plus que national.
Mais les Anglais ont un truc qu'on ne
voit pas, aussi
le cricket, monsieur.
Ah, c'est vrai.
Tout à fait, ça en revanche, oui. Et puis les Anglais ont remporté la Coupe du Monde il y a quelques semaines. Donc,
le seul problème du cricket, c'est que personne ne comprend les règles.
Ben si, eux, et les Pakistanais, les Indiens.
Voilà, les pays du Commonwealth. Non, les pays du Commonwealth. Mais un jour, je vous expliquerai. Un jour, quand on aura plus de temps, je vous expliquerai. Mais juste pour finir sur les autres sports co qui ne sont pas bien implantés ici, la façon aussi dont les fédérations de sport anglaises récupèrent de l'argent pour financer donc pour leur budget, etc., c'est fait par rapport aux médailles potentielles qu'ils pourraient remporter aux Jeux Olympiques. C'est comme ça que ça marche ici. Donc, par exemple, un sport qui a beaucoup de chance comme le cyclisme.
Donc, c'est l'élite avant tout, quoi.
Exactement. Donc les sports qui ils sont sûrs de rien leur apporter du tout, eux ils touchent pas un centime. En revanche, les gros sports comme le cyclisme, là en revanche, eux ils ont un très très gros budget.
Ouais, donc c'est un cercle vicieux, parce que plus t'as de budget, plus tu veux remporter.
Exactement. Donc autant dire que jamais en volleyball, même si un jour ils disaient tiens, si on mettait 20 millions sur le volley, non, ça c'est impossible, ça arrivera jamais.
Et c'est pour ça que les fléchettes marchent mieux, quoi.
Mais c'est pas olympique.
C'est dommage.
Pas
encore.
C'est olympique en Angleterre.
Mais les fléchettes en Angleterre, ça va. C'est dans une main et dans l'autre main, il y a une chope.
Il y a la bière. Ouais. Ah, forcément.
Exactement. Et c'est dans un bar.
Ah oui.
Et Simone Rovera, lui, qui ne joue pas aux fléchettes ni au handball en Italie. Salut Simone.
Ciao, bonsoir, bonsoir. Mais nous, on a l'escrime, on est très fort.
Salut Simone.
Oui, je parlais des sports courts. Tout à l'heure, j'allais pas faire un inventaire de tous les sports. J'ai dit water polo.
Tu vas par équipe.
Volley, basket.
Ouais, water polo, c'est légendaire ici. C'est
le meilleur water polo, excusez-moi, c'est les Croates, les Serbes et les Monténégrins, c'est pas les Italiens.
Ah, ça a longtemps été l'Italie. Ben, oublié la Hongrie, qui est une historique du water polo. Mais
l'Italie, ça reste énorme.
Bon, messieurs, si vous êtes là, c'est parce qu'on voulait clôturer cette période internationale par une petite photographie des forces en présence. Alors, on a vu notre équipe de France briller. Pas contre des grosses nations, certes. On a vu l'Allemagne, les Pays-Bas, tout ça. Donc, on va voir un peu ce que vous en pensez. On est à quelques mois maintenant de l'Euro 2020. On commence à avoir une idée des qualifiés. Bon, globalement, à peu près tout le monde. Hein, tout le monde va y être. Il ne va pas y avoir de grosses nations qui manquent. Attention, les Pays-Bas, quand même, il faut qu'ils se méfient. Qu'ils ne fassent pas n'importe quoi.
Quand même, merde.
Ouais, c'est quand même une belle équipe.
Trois favoris pour l'Euro, si tu dis qu'en plus, ils ne vont pas y aller.
Mais je ne dis pas qu'ils ne vont pas y aller, mais ils ne sont pas. Tu vois, il faut qu'ils confirment.
Ils ne vont pas passer avec l'Allemagne.
On va démarrer par la
Grande.
Est-ce que Laure a un avis sur l'équipe de France?
Ouais, c'était par rapport à l'ensemble des matchs qu'on a pu voir lors de cette semaine internationale. Moi j'ai un avis tranché sur l'équipe de France et je pense qu'aujourd'hui elle a le plus bel effectif. Le plus bel effectif, j'entends malgré beaucoup d'absences et pas des moindres, on avait Mbappé, Pogba, Kanté, Umtiti, Ndombele, donc ça fait quand même beaucoup de joueurs absents. On a vu d'autres joueurs émerger, en l'occurrence Coman, l'anglais, ce qui permet de dire qu'on a un réservoir de joueurs assez conséquent. On a aussi beaucoup de joueurs qui deviennent des titulaires indiscutables dans des grands clubs européens. Varane au Real, on a aussi tous les joueurs qui évoluent au Bayern de Munich. Et quand je regarde un petit peu les autres clubs, les autres nations, alors j'ai été séduite par l'attaque de notamment du Portugal avec Ronaldo, Joao Félix et Bernardo Silva, vraiment une attaque de feu. Mais je reste un petit peu mesurée par rapport à l'aspect défensif de cette équipe où je la trouve un petit peu friable. Du côté des Pays-Bas, il y a une belle génération, mais c'est encore assez jeune. L'Allemagne, je trouve que c'est une équipe en reconstruction. Il y a aussi beaucoup de carences. L'Angleterre, c'est un peu comme le Portugal, plutôt séduite sur le plan offensif. Et là, on a vu notamment qu'ils ont encaissé pas mal de buts sur le plan défensif. Il me rassure pas tellement. Donc voilà, je pense que l'équipe de France a pour le moment, je pense, le meilleur effectif. Alors maintenant, avoir le meilleur effectif, c'est un fait. Utiliser au mieux les joueurs, c'en est un autre. Donc voilà. En tout cas, je pense qu'il y a des bonnes choses à faire avec cette équipe de France et que je pense que ça peut être aussi une force en puissance. Elle est capable d'aller chercher, en tout cas, ce titre de champion d'Europe.
Avant qu'on aille prendre les avis de Simonet et Julien, est-ce que vous êtes d'accord avec Laure, les gars?
Oui, que la France soit un des plus belles effectifs d'Europe, oui, complètement. C'est pas, voilà, on n'est pas pour rien champion du monde. Et...
Non, dis le plus beau.
Moi, sur le papier, en tout cas. Sur
oui,
le papier, je pense.
Oui, oui. Ouais, probablement. Faudrait comparer. Après, on sait très bien que c'est pas toujours les plus beaux.
Le fait d'avoir le meilleur effectif ne dit pas forcément que tu vas être le meilleur, tu vas produire le meilleur jeu, tu vas être le plus performant. Ça, c'est autre chose.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est relativement jeune quand même. En tout cas, t'en as pour un petit moment à avoir des bons joueurs dans les meilleurs clubs européens. Après, oui. Est-ce que c'est ça qui te permettra d'aller au bout? Pas forcément. Mais oui, je suis d'accord avec Laure. On a un des plus bels effectifs, si ce n'est le plus beau en Europe, ouais, effectivement.
Bon. Moi, j'en ai parlé hier soir. Effectivement, je mettrais la France dans les favoris, c'est sûr, à l'Euro, parce que le titre de champion du monde a donné beaucoup de confiance, parce qu'il y a des joueurs qui arrivent à maturité et qui, alors que ce n'était pas complètement le cas il y a encore deux ans, là, sont bons dans des gros clubs. Les voyants sont tous plutôt au vert. Maintenant, la réserve de Pierre, elle est logique. La France est loin d'être la plus belle en 2018.
Et c'est pour ça.
Elle termine championne, alors qu'en favori, on citait l'Allemagne qui s'est plantée, le Brésil qui n'a pas réussi à trouver la faille contre la Belgique et qui avait pourtant une très très belle équipe, l'Espagne qui s'est fait plomber sur une séance de pénaux dans un huitième délirant contre la Russie.
On en parlera avec Simonet, mais moi, une équipe comme l'Italie.
Elle est intéressante, elle est jeune, mais elle est intéressante.
Ah ouais, puis c'est à craindre, quoi. C'est ce genre d'équipe est à craindre.
Il y a beaucoup d'équipes à surveiller. Après, sur une compétition comme ça, tournoi, et on oublie un peu trop que c'est pas un championnat, c'est vraiment du tournoi. Il y a le petit championnat au début, pour sortir de la poule. Mais après, sur les matchs couperets, surtout là maintenant à l'Euro, on est à 24 équipes maintenant.
Oui.
Donc t'as un huitième de finale, le chemin est un petit peu plus long qu'il a pu l'être dans le passé où c'était plus condensé. Moi je trouve qu'au contraire ce sera très ouvert. Ça m'empêche pas de penser que la France a évidemment un rôle à jouer et qu'elle peut être mise dans les trois favoris. Mais je pense que c'est plus ouvert qu'on le pense. Et moi je pense au contraire qu'il y a énormément de nations qui sont en quête de rachat, qui sont également en progression. L'Italie, l'Angleterre. L'Allemagne plaît pas à grand monde.
Ouais, mais bon.
Je sais pas pourquoi, mais... Moi, je la trouve quand même intéressante.
Ouais, je trouve friable quand même défensivement. Je la trouve parfois un peu lourde.
Possible, mais les Pays-Bas, je pense, peuvent faire mal à beaucoup de gens et on l'a vu. Ils ont fait mal à la France récemment. C'était un très
bon
match.
Ouais, le Portugal aussi est quand même.
Le Portugal, je trouve qu'il y a peut-être plus d'équipes qui ont l'air fortes à la dernière Coupe du Monde et que lors du dernier Euro.
Et après, juste pour rejoindre sur l'équipe de France aussi, c'est pareil. Je pense que l'équipe de France, ça pourra pas être championne d'Europe comme elle l'a été à la Coupe du Monde. Il faudra proposer autre chose pour surprendre l'adversaire. Parce que tu pourras pas. Voilà.
Peut-être qu'ils sont en train.
Ouais, alors, Simonet, qu'est-ce qui nous empêche de croire qu'ils pourraient pas recommencer comme ça?
Simonet, ton avis à toi?
C'est pas ce qui nous plaît, mais.
Beaucoup attendu.
Mais avec les joueurs que t'as devant.
Non, mais tu risques d'avoir des équipes qui ne se livrent plus parce que tu sais la qualité de contre et tu sais justement la qualité du jeu défensif. Ça peut donner des matchs ultra fermés. Tu peux passer à la porte après une séance péno en 8e.
Exactement.
En quart,
Simonet.
Je suis d'accord sur une chose, mais je vais faire grandir un peu le discours, c'est-à-dire la France.
Excuse-nous, Simonet, d'avoir un discours un peu petit, un peu étroit.
Agrandir, on peut dire.
Élargir.
Parce qu'on parle d'effectifs. Pour moi, la France a les plus beau réservoir des joueurs, peut-être c'est ça, c'est-à-dire même au-delà des 23, si on doit choisir 40, 50 joueurs, la France a bien meilleur choix que beaucoup d'autres pays, même des grands pays comme aujourd'hui peut être l'Espagne ou l'Allemagne. Après, sur les 23, c'est un peu moins important cette gap avec les autres. Et sur les 11, là, je suis pas d'accord pour dire. Je trouve qu'il y a des 11 qui sont meilleurs de la France. Mais après, la France est championne du monde. Donc, aucune débat. Pour moi, c'est pas entre les favoris.
Les 11 qui sont meilleurs, tu penses à qui?
Quelle équipe, Simonet?
Moi, je trouve la Belgique meilleure.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié la Belgique.
Moi, je l'ai trouvé très belle, très intéressante.
C'est vrai qu'on a oublié la Belgique, et la Belgique, c'est vrai qu'ils ont un bel effectif aussi.
Ouais, il y a un bel effectif,
c'est
magnifique, mais pas
bon. Il y a 9 comme Lukaku, un 10 comme Hazard, t'as des Mertens, t'as des latéraux très importants, un super gardien. Voilà, mais après, sur les 23, peut-être la France a plus de choix. Mais c'est vrai qu'on gagne les tournois en 23. Mais un match, tu le gagnes en 11-14. Et sur là, pour moi, il y a moins de distance.
On va voir l'avis de Julien dans quelques instants au 32-16. On continue le débat avec vous, bien sûr. Julien Laurent, ce n'est pas au 32-16, mais on a son avis tout de suite dans quelques instants. Et au 32-16, on vous attend pour réagir, bien sûr. Messieurs,
changer, c'est
messieurs, on accueille ce soir Pierre Barthélémy, qui est avocat de plusieurs associations de supporters, très au fait de ce qui se passe dans les tribunes et surtout de la législation qui entoure les tribunes. Bonsoir Pierre.
Bonsoir à tous.
Et merci d'être avec nous, puisque ça a été une longue journée.
C'est un job qu'elle vend en poupe, ça, c'est... Il y a du boulot. Hein.
Ouais. Hein, bon, on espérait qu'il y en ait moins, mais...
Il y a 15 ans, il y en avait moins.
Et ils payent les assos ou t'es bénévole?
Je suis bénévole.
Ah ouais, quand même. Tu prends sur ton temps pour ça.
Ouais, mais c'est comme il y en a qui sont engagés parce que.
Non, mais je c'est tout.
Tu fais pas que ça. Tu fais pas que ça.
C'est à ton honneur. Et
c'est comme
ça.
C'est comme toi, Daniel.
À la qualité de ton.
Les émissions, t'es bénévole, toi.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Bah, c'est parle de foot. Mon savoir pour le foot français.
Bah, exactement. Heureusement.
Heureusement. Tu utilises même son scooter pour venir au boulot et aller d'un lieu à un autre sans le travail.
Mon corps.
Ah ouais, non, bien sûr.
Au-delà de la blague, ben non, mais bravo, quoi, félicitations. Le mec, il pourrait faire son cabinet et tout ça, et il prend sur son temps pour sa passion.
Bravo alors.
Bravo.
Eh oui. Alors, si Pierre est là, c'est parce qu'aujourd'hui à la Ligue, il y avait une journée organisée avec toutes les, on va dire, les parties prenantes des tribunes, notamment liées à l'actualité des chants homophobes. On ne va pas parler que de ça avec Pierre, parce que on sait qu'il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent dans les revendications des tribunes, entre les interdictions de déplacement, les chants, les fumigènes et tout ça. Donc on va essayer de faire les choses de façon assez concrète et organisée autant que faire se peut dans l'after, hein, parce que des fois, c'est un peu compliqué.
Est-ce que tous les dossiers ont
été abordés? Ça dépend avec qui. Hein.
Non, mais d'abord, est-ce que tous les dossiers ont été abordés aujourd'hui?
Attends. Déjà, laisse-moi mettre sur la table ce qui s'est passé aujourd'hui. Était présent donc l'Association nationale des supporters qu'on connaît bien, puisqu'on reçoit régulièrement certains de ses représentants et on aime bien ces dialogues-là, évidemment.
C'était représenté par Rof, c'est Kylian, je sais pas quoi.
Oui, il y avait Kylian et moi pour l'ANS. Ouais.
Voilà.
Kylian, comment? J'oublie toujours son nom.
Mbappé.
Kylian. Ah, il a juste un prénom?
Bon, il vous donnera son nom s'il veut le donner, mais il s'appelle Kylian.
Bon, on me l'a dit aujourd'hui, j'ai oublié, tant pis pour moi.
Voilà.
Ok.
Les associations de lutte contre l'homophobie, la Ligue, tout ça, bien sûr, suite aux différents événements de ces dernières semaines, au passe d'armes d'hier encore entre Noël Le Graët, Roxana Maracine et Loup. D'ailleurs, je précise que ça y est, ils se sont rabibochés, communiqué commun, Pierre, ce soir, Le Graët, Maracine et Anou, oui, on est ensemble pour lutter contre la discrimination.
Le soleil est revenu, les nuages sont dissipés.
L'Élysée a sifflé la fin du match aussi, enfin, voilà. C'est assez clair.
Bon, du coup, voilà, tout va bien.
L'apaisement.
Alors, est-ce que cette journée, Pierre, a été constructive? Est-ce qu'il en est sorti des choses positives? Ou alors, est-ce que ça a été une énième journée en mode comité Théodule, comme on sait si bien les faire en France?
Non, journée très positive. Alors, au-delà de ce qui a impliqué les supporters cet après-midi, ce matin, il y avait quand même aussi le premier séminaire des référents supporters organisé par la Ligue. Donc, évidemment, a été abordée aussi la question des champs problématiques pour...
Alors, les référents supporters, il y en a qui ne savent pas, chaque club a l'obligation d'avoir un référent supporter embauché par le club qui sert de lien entre les tribunes et le club.
Voilà. Exactement, c'est une nouveauté donc depuis 2016 et c'est un outil formidable, ce qui vraiment a permis de beaucoup mieux circuler l'information entre les différentes parties. Et là où il y a un vrai référent supporter qui a vraiment noué une relation de confiance avec les supporters, tout le monde reconnaît sa qualité et son utilité pour éviter des tensions. Et notamment, on sait qu'il y a un gros problème aujourd'hui sur les interdictions de déplacement. Et souvent, eux, ils sont capables d'apporter des informations pour rassurer les préfectures et pouvoir faciliter l'accès des supporters au parquage visiteur. Donc, c'est vraiment un très bon outil. Et la Ligue s'est beaucoup impliquée sur sa mise en œuvre en créant notamment un poste dédié à la Ligue d'un référent des référents supporters. Donc, c'est
première question. Bon. C'est qui cet homme-là? Qu'on sache qui c'est, parce que après tout, c'est un poste central.
Chaque club a son référent.
Non, le référent.
Il y a un référent qui il s'appelle Maël, qui est très bien. Enfin, il travaille très bien. Et puis, je pense que la Ligue vous en
parle. Ça, c'est un vrai succès quand même, hein, ces référents supporters. On ne le souligne pas assez. Alors, mais
justement, c'est vrai que
c'est des gens très importants.
Tu as dit à quel point c'était plutôt une belle initiative. Tu n'as pas envie de dire, toi, dans les relais que tu as en référence, si vous pouviez juste arrêter deux secondes les banderoles sur la Ligue, parce que la Ligue, je trouve qu'elle essaye de faire énormément de choses. Elle essaye de bosser sur le dossier des déplacements. Non mais franchement, elle essaye d'arranger les choses.
Quand tu vois le nombre d'interdictions de déplacement encore.
Je sais, mais
la Ligue doit travailler dans ce sens-là aussi avec les autorités. Je suis désolé.
Justement, si t'es d'accord avec moi, vraiment, arrêtez les bandes. C'est la Ligue fait vraiment beaucoup.
Ouais, en fait, faut dissocier deux choses. C'est-à-dire que la Ligue, bon, il y a des désaccords encore, et puis c'est normal. Enfin,
ça c'est vrai.
On doit pas être dans le meilleur des mondes possible, mais la Ligue fait énormément d'efforts. Elle a fait beaucoup de choses. On peut citer son support sur les tribunes debout. Elle a apporté un gros soutien juridique et technique sur l'expérimentation des tribunes debout avec un livret qui a été remis au ministère et qui a permis de lancer l'expérimentation. Elle a entendu les demandes des supporters sur l'accessibilité des parkages visiteurs en mettant des plafonds de prix à 5€ en Ligue 2 et 10€ en Ligue 1, ce qui, lorsque les préfets ne font pas des leurs, permet de faciliter l'accès à un public plus populaire à ces tribunes-là. Donc il y a un vrai boulot, et même sur les interdictions de déplacement, elle s'implique au sein de l'instance nationale du sportérisme, donc il y a une entité rattachée au ministère où il y a la Ligue, la Fédé, les ministères, les supporters. Elle travaille. En revanche, là où il y a un très gros problème, c'est par rapport à la commission de discipline de la Ligue, qui est indépendante de la Ligue, puisque la commission de discipline doit pouvoir sanctionner les dirigeants de la Ligue lorsqu'ils ne respectent pas le règlement. Et là, on a un problème philosophique principal avec cette commission de discipline qui prend des sanctions collectives. C'est-à-dire que pour punir 15 personnes qui ont allumé un fumigène, elle va fermer une tribune entière, donc elle va punir 5000 personnes, ce qui crée des rancœurs, ce qui est complètement injuste en soi. On est le dernier pays au monde à prendre des sanctions collectives dans les tribunes, alors qu'en plus on vient de signer en France la convention du Conseil de l'Europe qui dit que c'est une bêtise. Donc enfin, on a un vrai problème avec cette commission de discipline qui en plus charge les clubs avec des amendes. Enfin, on sent pas que la qualité du dialogue avec la Ligue se ressent sur la commission de discipline, et on reste avec cette injustice incompréhensible des sanctions collectives. Et c'est pour la raison pour laquelle l'ANS a demandé qu'on travaille sur un moratoire sur cette question, en disant voilà, nous on travaille sur tous les sujets avec la Ligue et avec toutes les parties prenantes, donc maintenant on veut un moratoire sur ces sanctions collectives pour travailler plus utilement. Et la raison pour laquelle l'ANS s'est engagée à la réunion aujourd'hui après-midi à la Ligue sur l'homophobie, enfin sur la lutte contre l'homophobie, c'est parce que l'ANS a reçu par l'ensemble des parties prenantes des gages en ce sens.
Voilà, donc ça, c'est une vraie avancée. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance maintenant, parce que l'ANS, en gros, ça regroupe quasiment tous les groupes ultra aujourd'hui.
Pas tous, mais c'est assez représentatif.
Quasiment.
Entre les membres qui cotisent et les membres qui soutiennent et qui participent, c'est une quarantaine de groupes de supporters en France, donc ça couvre quand même une.
Donc ça veut dire que normalement, si tout cela est suivi des faits, on ne devrait plus avoir les banderoles où on joue un peu avec les mots et la légalité qu'on a eu ces dernières semaines. Je résume bien.
Bon, on sait bien que déjà les groupes gardent leur autonomie et leur liberté. L'ANS n'a pas de donner de consignes aux groupes. Après, il faut aussi voir qu'il faut que la pression redessende, que l'information redessende. Donc,
les mecs qui sortent de la Ligue cet après-midi en disant OK, on va faire des efforts, on est tous d'accord, et puis que
si on fait ça, il sera ça.
Oui. Ce banderole, bon.
Non, dans l'esprit, effectivement, il devrait y avoir aujourd'hui une baisse des tensions, parce que toutes les parties, la Ligue en première, connue, l'a martelé. On ne dit pas que les supporters sont homophobes, on ne veut pas les stigmatiser. C'est simplement que la société évolue. Aujourd'hui, il faut sensibiliser sur les mots qui peuvent être utilisés dans les chants et dans le banderole, et ça va être un travail de long terme. Et vraiment, enfin, la Ligue a beaucoup utilisé le mot de discernement, et c'est ça aujourd'hui. Donc, évidemment, tout va pas changer du jour au lendemain. Il y aura peut-être des groupes qui vont être encore un peu réfractaires et échaudés par ce qui s'est passé. En revanche, aujourd'hui, la réunion cet après-midi, elle a acté d'une désescalade des tensions, et on va petit à petit revenir à plus d'intelligence et de constructivité dans les travaux.
Avant que Jérôme et Pierre prennent la parole, c'est fini. Handball, le score final entre Nîmes et Montpellier. Julien Landry.
Victoire nîmoise à la sirène grâce à un but de Rémi Salou, 25-24. Et c'est très rare que les Nîmois s'imposent dans le derby, et ça lance parfaitement leur saison. Victoire de Nîmes, 25-24.
Merci Julien.
Et Montpellier sans interdiction de déplacement, on salue la préfecture.
Ah ouais, bravo, c'est le handball.
Ça marche. Ça marche pas, puisque tu abordes ce sujet.
Il y a moins de monde.
Il va y avoir effectivement des avancées. Effectivement, on va essayer d'aller dans le bon sens et de voir si des déplacements ne vont pas être autorisés. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Il y a des matchs où c'est mort de chez mort. Hein, Lyon-Saint-Etienne.
Oui, mais à la limite, qu'il y ait quelques matchs, Daniel, on l'entend. Alors, par contre, il ne faut pas féliciter la Ligue pour le hand, puisque la Ligue n'a rien à voir là-dedans. C'est la préfecture qu'il faut féliciter, si j'ai bien compris.
On félicite bien la préfecture de l'Hérault.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est la préfecture qu'on félicite. Ouais.
Mais pourquoi tu dis, Pierre, s'il y a quelques matchs, on l'entend? Non, moi, je ne l'entends pas.
Si,
désolé, à terme, je ne l'entends pas. J'espère qu'un jour,
à terme,
on arrivera
à
envoyer les supporters de Saint-Etienne à Lyon.
Mais tu sais quoi? Pour tout de suite, là.
Non, mais oui,
je suis d'accord avec toi. Peut-être que à la fin, Si tout le monde peut se déplacer partout, ce sera magnifique. Mais je peux entendre qu'il y ait certains matchs avec
plus de
tension et de risque.
On part de tellement loin.
Ça a toujours existé.
Voilà. Maintenant que dans une journée de championnat, aujourd'hui, dès le début de saison, t'es 5 matchs concernés par ça, j'ai du mal à le comprendre.
Non, mais c'est sur la saison à venir, les seuls matchs où il y a des interdictions, c'est PSG OM et Lyon Saint-Etienne. Je pense qu'on aura fait des progrès.
Voilà, par exemple.
à ça. Et puis de toute façon, on comprend aussi, par exemple, après les attentats du Bataclan, il y a eu des arrêtés sur tous
bien
les matchs, mais on va le comprendre.
Oui, bien sûr.
On parle pas de ça. Bien sûr.
Non, on parle de journée de championnat au mois d'août, quand ça reprend et qu'il se passe quasiment plus rien d'autre, où il y a 5 ou 6 matchs qui sont concernés par ça.
On va parler des interdictions de déplacement, des fumigènes, parce qu'en fait, je le disais en introduction, on se rend compte que tout ça est assez imbriqué. La dernière fois, on avait Florian Brunet, qui est porte-parole des Ultramarines à Bordeaux, qui lui disait, voilà, son discours était assez clair, il disait, de toute façon, cette histoire de chant homophobe, c'était sa théorie à lui, c'est une façon pour les dirigeants des clubs aussi de faire de la gentrification, c'est-à-dire d'essayer de nous sortir du stade pour mettre une population différente à la place.
C'est le gars avec qui Daniel était d'accord, c'est ça?
Voilà.
Non, mais justement,
au fond, ils étaient assez d'accord.
Oui, je remarque, mais je te taquine, Daniel, c'était une blague, parle pas là-dessus.
Très calmement, pourquoi ce qu'il dit est une absurdité? Ce complot, parce que c'est comme ça qu'il en parlait, ne peut pas exister en France. Tout simplement parce que cette histoire de gentrification et que redoute Pierre, tu me dis si c'est complètement faux ce que je raconte, qui est redoutée par les tribunes en France et qui, il a raison, on pourrait la redouter. On n'a pas du tout la même sociologie, la même histoire par rapport à l'Angleterre. Quand l'Angleterre le fait, d'abord, ça, c'est après des années, des années de débordement qu'on n'a jamais eu en France, fort heureusement. Mais c'est surtout que quand ils font la substitution sociologique dans les tribunes, ce qu'ils proposent ensuite sur le terrain en termes de spectacle, de moyens financiers, tu peux, c'est un des éléments, c'est pas l'élément principal, mais tu peux dire je vais faire venir un autre public. Quand t'étales des millions sur la pelouse, que ça devient le championnat des étoiles, tu dis ouais, ok, on va peut-être séduire le cadre qui vient en loge ou des gens qui sont prêts à mettre 50 balles par billet pour voir que des stars jouer, tout ça, machin. La Ligue 1 ne peut pas proposer ça. Qui tu vas faire venir pour remplir le stade? Tu peux pas virer les ultras, tu peux pas virer les supporters, qui d'ailleurs, quelque part...
Ça dépend du stade.
Ouais, ah, oui,
les princes, pardon, il sera plein sans les ultras. Hein.
Bah, oui. S'ils ont aboli le plan Le Prou, c'est qu'ils se sont rendu compte.
Il y aura peut-être pas d'ambiance, mais il sera.
Non, il manquait l'ambiance. Oui, mais Gilbert a raison.
Donc, ça
ressemblait aux ambiances anglaises.
Il n'empêche que même là, ça a posé un problème. Non, mais même là, ça a posé un problème et le PSG n'aurait été qu'une exception. Et finalement, un pas en arrière a été fait. Donc, c'est un élément important. Et ensuite, le deuxième, peut-être le plus important pour l'Angleterre, il y a, il me semble, une tradition et une culture du foot qui n'a rien à voir avec la nôtre. Oui, là-bas, tout le monde s'intéresse au foot, toutes les classes sociales, ici aussi, depuis, on va dire, 10-20 ans. Oui. Mais avant que tu remplisses des stades en Ligue 1,
tous les week-ends,
à Bordeaux, tous ces publics qui sont très difficiles, à Nice, bon, maintenant, il va peut-être y avoir de l'oseille, ça va faire venir du monde, à Monaco... même à Marseille, où ils ont fait un énorme stade, quand tu vas avoir une moyenne de 5 ans,
déjà, la gentrification à Monaco, mais, c'est un concept.
Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Cette crainte-là de ce complot que fomenterait la Ligue pour virer le peuple du stade, c'est une connerie sans nom.
Pas la Ligue,
non.
Les dirigeants, la Ligue. En gros, les gens à Oseille, je l'ai encore entendu cet après-midi, mais avec Dorasso, sur le plateau de BFM. Le mec, c'est le complot.
Je vais décidément être beaucoup d'accord avec Daniel. En revanche, pour moi, quand les ultras tiennent ce discours, c'est un ressenti réel, c'est sincère de leur part. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'en fait, il y a deux biais. Le premier biais, c'est que souvent certains utilisent la médiatisation du football pour d'autres combats. Et le conflit qui est né sur la question de la censure, sur l'homophobie dans les stades,
absolument vrai.
C'est un agenda politique de certaines personnes qui utilisent le fait qu'il y a une vitrine médiatique sur le foot. Et donc, du coup, ça retombe sur les supporters, alors que c'est un problème de société beaucoup plus grave et que, objectivement, on connaît personne qui va pas au stade, enfin, qui a été exclu d'un groupe de supporters parce qu'il serait gay. Donc, il y a vraiment eu un problème dessus. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a une sorte, en France, de manque de culture foot, de mépris de classe pour les supporters qui sont souvent un peu caricaturés. Et donc, du coup, c'est plus facile de prendre des mesures restrictives de liberté contre les supporters avec les interdictions de déplacement, avec les interdictions administratives de stade que contre d'autres corps sociaux. Et d'ailleurs, on a bien vu que l'interdiction administrative de stade, elle a été validée contre les supporters, mais elle a été censurée contre les manifestants. Alors que dans les faits, ce sont exactement les mêmes libertés qui sont censurées et que un supporter, quand il va au stade, qu'il exprime sa passion, qu'il fait du lien social avec son territoire, il est tout aussi utile à la République, à la démocratie, exactement, que quelqu'un qui défend ses convictions dans une manifestation. Et donc, cette conjonction de détournement de la médiatisation du foot et mépris de classe des supporters fait qu'on se retrouve effectivement avec cette sorte de cobaye malgré eux des supporters, mais il n'y a jamais l'intention d'aseptiser, de tuer les supporters. Enfin, à la Ligue, je suis sûr qu'ils ont convaincu que, par exemple, des clubs comme Strasbourg ou Grenoble, s'il n'y avait pas eu leurs ultras, quand ils sont tombés très très bas après des
débats remontés,
s'ils sont remontés, s'ils sont restés,
bien sûr,
avec telle identité, c'est grâce aux supporters.
Et parfois, il y a, c'est ça que j'essaye
de combattre
et tout. Parfois, il y a une forme de parano chez les supporters.
Pas faire de l'anticorps.
D'être dans une posture de, on est seul contre le système. Mais non, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'ils devraient essayer de... Alors, c'est vrai que dans la culture ultra, on est un peu contre et qu'on ne veut pas bosser main dans la main avec les institutions. Mais en France, il y aura une chance vraiment forte et ça pourrait être très positif d'avancer dans ce sens parce que, comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas les mettre dehors. Le football français a besoin de ça. Si le football français n'a pas ça, il va avoir quoi ? Déjà, sur le terrain, c'est assez triste. Si en plus, on vide les tribunes et tout. Donc, là, il y aurait matière à faire quelque chose. Et c'est pour ça que la Ligue, d'ailleurs, travaille beaucoup en ce sens. Et
oui, mais sauf que ça s'arrange. J'entends tes arguments.
Sur quel sujet, Daniel ?
Ils ne sont pas réfractaires. Ils ne veulent pas se couper. Il n'y a pas de
cassure. Alors, si ce n'est pas la Ligue, il y a quand même d'autres problèmes parce que je suis désolé. Tout ce que tu dis là, on ne va pas dans ce sens-là pour les groupes d'ultra qui ont de moins en moins le droit de se déplacer, qui ont de moins en moins de liberté dans les stades aussi. Ben oui, mais ça fait partie de leur liberté.
Les déplacements, il y a une avancée.
À un moment donné, quand tu es ultra, tu suis ton équipe et que tu peux plus la suivre et que tu peux faire qu'un match sur deux, c'est à domicile. Eux le ressentent sûrement comme mais ça. C'est qu'on n'avance pas dans le bon
politique.
Sens.
C'est de la lâcheté politique. C'est pas une volonté délibérée contre les ultras. C'est de la lâcheté politique parce que c'est du foot et que le foot.
Je suis d'accord. Mais t'es bien placé pour savoir que je pense que les ultras le ressentent eux comme loin de ressentir comme une avancée en tout cas.
Toutes les raisons de penser.
Bien sûr.
On leur tape dessus sur l'alcool. Vous pouvez boire de l'alcool au bar ou en soirée étudiante jusqu'à ivre mort et faire des comas éthyliques. Mais en revanche, dans un stade, si vous buvez une bière, vous allez devenir
on est d'accord. Einstein.
On leur dit qu'ils peuvent pas allumer de fumigène alors qu'on voit des manifestations de policiers ou de pompiers, ils allument des fumigènes.
Exactement. Non, mais c'est exactement ça.
Moi,
c'est exactement
ça. De Jérôme qui a allumé un fumigène à la mairie de Paris après la victoire en Coupe de France contre l'OM.
Ah oui,
il aurait dû être sanctionné, bien sûr.
C'est pour ça que je défends les fumigènes.
Et puis
toujours.
On leur dit, vous pouvez pas vous déplacer parce que si vous vous déplacez, vous allez mal vous comporter. Il y a des mesures d'exception pour le sport, les interdictions.
Bon, après, ces choses-là peuvent aussi arriver. Hein. C'est pas non plus le monde.
Ça va tellement loin.
Rose, extraordinaire.
Oui, c'est une accumulation et c'est normal quand tu es supporter qu'on ressente cette accumulation.
C'est pour ça qu'il faudrait. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas se braquer et être totalement contre le système, mais il faudrait faire des avancées des deux côtés pour que. Enfin, des deux côtés. Oui, des deux côtés pour essayer de se retrouver. Au lieu de n'avoir rien, pour au moins avoir un peu, voire la moitié, et petit à petit avancer.
Mais c'est pas être dans ça serait idéal, je suis d'accord.
Parce que tu n'avanceras jamais.
Mais qui c'est qui avance pas
là, pour le coup, il y a un vrai argument, c'est que depuis la création de l'Association nationale des supporters, il y a quand même un vrai interlocuteur au niveau national.
Ouais.
Dans cet asso, il y a les Nîmois et les Montpelliérains, il y a les Nancyens et les Messins. Enfin, je veux dire, c'est pas.
Les Parisiens et les Marseillais?
Il n'y a pas les Marseillais, mais il y a les Parisiens. Bon. Enfin, donc il y a des gens qui font fi de leur rivalité et de divergence.
C'est intelligent.
Et ça donne un interlocuteur au pouvoir public. Et c'est aujourd'hui, il y a eu une vraie prise de conscience. Et je pense qu'ils font beaucoup d'efforts, hein, qu'ils soient présents à la réunion à la Ligue aujourd'hui pour les ultras. Enfin, on se rend compte que c'est quand même c'est très fort de leur part.
Mais beaucoup considèrent encore que c'est une trahison envers les valeurs de base du mouvement de discuter. Et d'aller en gros discuter avec, entre guillemets, l'autorité. Il y a encore un petit peu cette culture-là. C'est un petit peu dommage. Je peux la comprendre. C'est des valeurs de base du mouvement. Et ce qui fait que parfois, les gens qui les représentent ne sont pas forcément légitimes après à l'intérieur. On dit, ouais, toi, t'es allé parler, mais après tout, t'es qui ?
Quand l'ANS va à une réunion, elle a un mandat de son Assemblée Générale.
Très bien, tant mieux alors.
C'est clair.
On va accueillir Saad qui veut intervenir. Ensuite, on parlera du politique, parce qu'il y a certains politiques qui veulent que les choses évoluent. Et
on les avait reçus, en plus, c'est des politiques qui sont équipés.
Saad, bonsoir.
Bonsoir, les gars.
Salut.
Bonsoir.
T'es supporter de quel club ?
Du Paris Saint-Germain.
C'est bien.
Très bien.
C'est bien. Il y en a d'autres, mais c'est bien ça.
Alors, ton avis dans le débat, là ?
Justement, alors moi je vais aller un peu plus loin et pour une fois je trouve que Daniel est un poil naïf. Pour avoir travaillé à la billetterie du Paris Saint-Germain au moment où c'était en train de changer, où les Qataris étaient arrivés, moi j'ai vu le changement de population dans le stade, en tout cas au parc. La gentrification, j'ai même entre guillemets
j'ai dit le PSG était une exception, ne dis pas que je suis naïf. J'ai dit c'était une exception, je parlais de tout. Il y a 19 autres clubs en France.
Vas-y.
Je te parle de ce que moi j'ai vécu pour l'avoir expérimenté, mais tu l'observes aussi dans les autres clubs. Il y a juste un signe qui trompe pas. C'est dites-moi quels sont les derniers clubs qui ont été rachetés en France. Bordeaux, Nice, Lille, et leur point commun, c'est d'avoir un stade récent. Le premier truc dont a parlé Héro quand ils ont racheté Marseille avec Macourt, enfin, quand Macourt a racheté Marseille, c'est la fameuse sono dans le stade, c'est l'exploitation du stade Vélodrome. Quand les Qataris sont arrivés, pour la première fois de notre vie, on a entendu parler des baux amphithéotiques pour l'exploitation du Parc des Princes.
D'accord, mais ça, si tu veux développer le business, et ça permet au club d'avoir plus d'argent pour avoir plus de joueurs.
Mais, excuse-moi, mais. Ce qui se passe, c'est que on cherche, je pense, à exclure ou à réduire la part des ultras et des supporters qui consomment peu dans le stade pour faire encore plus de place à des gens qui vont consommer.
Mais il n'y a pas les gens, ça n'existe pas en France ces gens-là.
Je termine. Le point de dissonance, c'est que les gens qui mènent ces politiques-là sont des anglo-saxons et ont l'habitude de faire ça dans leur pays. Et le problème,
je vais défendre ça sur un point. Daniel, en fait, tu as raison, sauf que dans l'esprit des dirigeants, pour eux, pour comment il s'appelle notre ami Dagroza par exemple, voilà, ou pour Macourt, pour eux ça existe.
Alors,
une erreur.
Mais ça existe parce qu'il regarde le modèle parisien. Daniel disait que c'était une exception.
Je pense qu'il lui faudra
deux mois pour voir qu'il fait complètement erreur. Ou alors il est vraiment con en marketing s'il croit ça, vraiment.
Ah, il a voulu réduire la file d'attente pour les hot dogs et il a vu que ça n'avait rien changé. Ouais.
Exactement. Voilà. D'ailleurs là, il a râlé sur le niveau des sponsors.
Il n'y a pas, moyen de le faire en France comme en Angleterre. Ça
merci
n'est pas
pour
possible.
Ton expérience en tout cas, c'est intéressant.
Et puis vraiment,
et puis, à Paris, il y a eu un pas en arrière
de fait. À Paris, si les ultras sont revenus, c'est pas un cadeau ou c'est pas parce qu'on a gagné en justice contre le PSG. Ils étaient prêts à perdre des années encore, hein, c'est vraiment parce que les joueurs en avaient marre.
Et
le public commençait à quitter le stade. Ceux qui étaient venus pour les stars à l'arrivée des Qataris ont commencé à partir parce qu'il y a plus d'ambiance, c'est mort. Donc ils venaient pour les gros matchs, mais ils revendaient leurs billets pour les matchs en hiver contre des clubs de deuxième partie de tableau.
Mais même le PSG ne fait donc pas office d'exception.
The sun gently fell below the horizon. Rays of pure gold filled the sky, illuminating the towering structures of the London skyline. What else could Jane do but gaze in awe? She was but a silhouette upon a hill, wrapped up in a spectacle so perfect, no words, oil paintings, or smartphone filters could do it justice. She savored it. Before hopping back on her bike and riding off, she had to finish her commute home. Walk, cycle, discover. To the Mayor of London and TfL, every journey matters.